Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Swad Boukorsa. Deuxième volet de notre série consacrée à l'Afrique et aux pays qui tentent d'y imposer leur puissance. Après avoir évoqué lundi l'héritage colonial français et avant d'aborder demain les ambitions chinoises, intéressons-nous aujourd'hui à un acteur qui a de nouvelles ambitions sur le continent, la Russie. De Bangui à Tripoli, le retour de Moscou en Afrique, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous considérons la Russie comme un partenaire fiable du continent africain. Nous espérons que la Russie travaillera en Afrique dans tous les domaines et contribuera à son développement.
Il y a un très bon potentiel de développement. Cela nous permet d'espérer un accroissement du commerce. Dans 4 ou 5 ans, nous pourrons au minimum doubler le volume de nos échanges commerciaux.
Grâce au soutien de nos amis alliés comme la Fédération de Russie, nous avons considérablement réduit le nombre de terroristes de Boko Haram.
Mes militaires m'ont fait passer le message. Ils veulent que vous reveniez, comme au bon vieux temps. Ils veulent des conseillers militaires russes, déjà, pour commencer.
Dans l'ordre, Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien, Vladimir Poutine, le président russe, et puis les présidents nigérians et namibiens, tous réunis dans un grand sommet Russie-Afrique. En octobre dernier, 47 chefs d'État africains se sont rendus à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, répondant à l'invitation du président Vladimir Poutine. Un succès diplomatique, un succès d'image pour ce premier sommet Afrique-Russie, marquant le regain d'intérêt du Kremlin pour ce continent largement délaissé depuis la chute de l'Union soviétique. Cette dernière avait pourtant mené une véritable politique africaine, appuyant notamment les processus de décolonisation de certains pays. De fait, le retour de Moscou en Afrique dépasse largement le cadre des anciens alliés de l'URSS, même si ces derniers gardent une place de choix. En effet, le Kremlin place également ses pions dans des pays que la France, par exemple, a longtemps considéré comme son précaré, comme la Centrafrique ou le Mali. Misant sur son absence de passé colonial et l'affirmation du principe de non-ingérence, Moscou s'y présente comme une alternative plus respectueuse des souverainetés africaines. Alors comment ce regain d'intérêt mutuel entre Afrique et Russie s'est traduit-il concrètement ? Sur le plan militaire, commercial, diplomatique, dans quelle mesure aussi bouleverse-t-il les équilibres en place? Quels sont les pays les plus directement concernés et pour quelles raisons? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Louis Magloire Kemayou. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. On a invité également Arnaud Dubien. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, spécialiste de la Russie. Vous êtes directeur de l'Observatoire franco-russe, chercheur associé à l'IRIS. Vous avez écrit un certain nombre de choses, de notes, de rapports sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, notamment la Russie et l'Afrique, mythe et réalité, on aura l'occasion d'en parler. On va commencer avec vous, Arnaud Dubien, justement. Réaction un peu générale, on va avoir le temps de détailler, mais sur ce premier sommet africain à Sotchi, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous semble indiquer des nouvelles ambitions de Vladimir Poutine du côté de l'Afrique?
Disons que ce sommet symbolise le retour de la Russie en Afrique. C'est un, vous l'avez dit, un succès d'image, puisqu'une quarantaine de chefs d'État ont fait le déplacement. Cela marque la densification de la relation entre la Russie et les pays africains. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est que ce retour n'est pas récent en réalité.
Absolument.
Il remonte à une bonne dizaine d'années. Je pense qu'on peut le dater à 2006 avec l'Algérie. La visite de Vladimir Poutine en Algérie et l'expérimentation d'un schéma qui va ensuite être testé ailleurs, c'est-à-dire l'effacement de la dette héritée de la période soviétique en échange de la signature de nouveaux contrats, en particulier de contrats d'armement. Donc ce regain d'intérêt n'est pas nouveau, mais il est vrai que la géographie russe en Afrique s'est élargie et les domaines dans lesquels la Russie est présente, notamment sur le plan économique, là aussi c'est diversifié.
On va avoir l'occasion évidemment d'y revenir, bien sûr. On reviendra sur cette période où effectivement Vladimir Poutine enclenche ce retour en Afrique, parce qu'il y a l'Algérie, mais mais il y a aussi l'Afrique du Sud, il y a aussi le Maroc à ce moment-là. On va essayer de comprendre pourquoi ces pays-là. Du côté de l'Afrique, Louis Magloire Kemayou, on peut parler aussi d'un succès, en tout cas d'un intérêt visiblement des pays africains à cette nouvelle relation. 47 chefs d'État, preuve qu'on est enclin du côté de l'Afrique à renforcer ce partenariat avec Moscou.
Oui, parce que il faut pas perdre de vue le fait que le continent africain aujourd'hui fait face à des menaces qui sont nouvelles pour la plupart des armées africaines, qui étaient jusqu'à présent pour la plupart formées dans les pays du bloc de l'OTAN, pour caricaturer, mais c'est à peu près ça, c'était la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, quelquefois Israël ces dernières années, mais la Russie vient apporter un plus par rapport à cela, c'est que face par exemple à la menace djihadiste, face à Boko Haram, la France aujourd'hui est relativement limitée, même si elle a beaucoup de bonne volonté, elle n'est pas capable de résoudre tous les problèmes. Et puis il y a cette Cour pénale internationale qui a été créée, et qui peut s'auto-saisir, une fois que le Conseil de sécurité a décidé que vous étiez dans l'œil du cyclone, peut venir vous chercher, même si vous n'en faites pas partie. Et donc, pour les pays africains, il était important non seulement d'avoir un parapluie militaire, mais d'avoir la capacité, quand des décisions sont prises au Conseil de sécurité, de faire en sorte que l'embargo, le veto de l'un des membres permanents, puisse agir. Et la Russie apporte tout cela, l'expertise pour lutter contre les mouvements djihadistes, vu que la Tchétchénie, c'est quand même un combat qui a été remporté par la Russie, vu également que sur le plan des nouvelles menaces, là, elle apporte et l'armement et les mercenaires, mais en plus, il y a cette capacité d'apporter un veto au Conseil de sécurité qui n'est pas négligeable.
Est-ce que cet élément sécuritaire avancé par Louis Magloire Kemayou, Arnaud Dubien, peut expliquer en partie le calendrier? Si on relance aujourd'hui, si la Russie relance aujourd'hui précisément cette collaboration, ces partenariats avec les pays d'Afrique, c'est parce que précisément le contexte sécuritaire s'est dégradé?
Oui, mais pas seulement. Il y a un contexte russo-occidental qui explique également l'activisme croissant de la Russie sur le continent, qui est perçu comme finalement une terre d'opportunité où, cela a été dit, l'URSS avait beaucoup investi financièrement, humainement, industriellement. Et à Moscou, depuis quelque temps déjà, on estime qu'il serait bien dommage finalement de ne pas essayer de tirer profit de ce qui a été investi il y a quelques décennies. Et la Russie cherche à tirer profit de ses anciens réseaux. Elle cherche d'abord à convertir en flux d'affaires ses anciennes affinités idéologiques avec des pays qui étaient proches de l'Union soviétique. Mais encore une fois, ça va bien au-delà aujourd'hui. Il y a une diplomatie économique assez classique avec des pays, vous en avez cité quelques-uns, comme le Maroc, l'Afrique du Sud et d'autres. Et puis, ça c'est plus récent, c'est depuis 3-4 ans, effectivement, deux types d'activités. D'abord, une coopération entre services de renseignement russes et services de renseignement de la zone. Et cette diplomatie parallèle est conduite par le secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, M. Patrouchev, qui organise tous les ans une grande conférence sur le sujet en Russie. C'est l'occasion pour lui de discuter avec ses homologues de Namibie, de Madagascar ou d'autres pays qui peuvent être concernés par ce type de menace, le Mozambique par exemple, récemment. Et puis il y a un autre volet qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus nouveau, en tout cas s'agissant de la Russie, ce sont les compagnies militaires privées. C'est un nouvel outil dans la palette russe, au-delà des livraisons d'armes qui sont tout à fait officielles, des accords de coopération qui peuvent être tout à fait officiels. Il y a cet instrument qui est un instrument de zone grise qui permet aux Russes d'intervenir dans des endroits où ce n'est pas forcément assumable, entre guillemets, politiquement, mais ça peut rendre des services extrêmement précieux du point de vue des dirigeants africains.
On y reviendra évidemment, et notamment le groupe Wagner, où il y a eu effectivement, on les a vus, ces mercenaires du groupe Wagner du côté de la Centrafrique, on les voit aujourd'hui aussi du côté de la Libye, donc cette zone grise, justement, peut-être qu'on n'y reviendra tout à l'heure. Mais vous avez évoqué la question des anciens réseaux soviétiques, parce que effectivement, il faut se souvenir que le moment de la décolonisation a été une opportunité absolument formidable pour l'URSS de marquer justement le continent de son influence. On a, dès les années 60, beaucoup développé des liens avec les pays d'Afrique. On y a envoyé des ingénieurs, on y a envoyé des enseignants. Du côté aussi de Moscou, on a mis les choses en place pour accueillir des étudiants. On a, par exemple, fondé cette fameuse université Patrice Lumumba, qui a été fondée en 1960 en l'honneur, évidemment, du héros de la décolonisation du Congo belge, qu'on a rebaptisé depuis université de l'amitié des peuples, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais précisément, ces anciens réseaux, jusqu'où est-ce qu'ils existent encore aujourd'hui, et jusqu'où est-ce qu'ils permettent précisément à la Russie d'aujourd'hui, la Fédération russe, de réactiver précisément tout cela et de remettre en place justement sa place sur le continent, Louis Magloire Camaillou. Je vous pose la question, c'est pas complètement un hasard, puisque on en parlait juste avant de commencer cette émission, il se trouve que vous avez eu l'occasion, alors pas d'aller étudier à Moscou, mais plutôt du côté de Kiev, mais du coup vous avez vécu, si je puis dire, de l'intérieur, ces liens très forts entre l'Afrique et l'URSS à l'époque.
Oui, vous seriez surpris de savoir le nombre d'Africains qui sont aujourd'hui aux affaires ou pas très loin du centre, de l'épicentre des affaires et qui ont fait leurs études en Russie. Ils sont très nombreux, que ce soit en Angola, que ce soit au Congo, que ce soit en Algérie. La plupart de ces pays, en Guinée par exemple, en Guinée-Conakry, il y a de nombreux pays dans cette configuration-là qui ont envoyé leur cadre se faire former en Russie, dans l'Union soviétique à l'époque, et qui sont revenus. Et qui aujourd'hui représente une espèce de soft power pour la Russie qui lui permettrait d'entrer plus facilement à la fois dans les capitales et dans les familles sans grande difficulté.
Mais est-ce qu'il y a aussi des jeunes? Est-ce que l'effondrement de l'URSS, ça constitue une rupture de ce point de vue-là? Ou est-ce que les jeunes ont continué à aller du côté de la Russie pour étudier?
Moi, j'y suis allé après la fin du mur. Ouais, je suis allé en 1994. Le mur était tombé depuis longtemps. Ouais. L'Union soviétique s'était disloquée. Il y avait des républiques indépendantes de part et d'autre.
Arnaud Dubien, on dit que du côté de la Russie, c'est encore un outil qu'on utilise assez largement. Il semblerait que, par exemple, du côté de la RDC, j'ai lu un papier pour préparer cette émission qui en parlait, eh bien, on envoie des personnes pour pousser les étudiants congolais à venir étudier à Moscou.
Oui, effectivement, c'est un outil de soft power assez classique. Et la Russie, de ce point de vue-là, a beaucoup de retard par rapport aux Occidentaux. Il y a beaucoup plus d'étudiants africains dans les universités occidentales que russes. Mais effectivement, c'est un outil que les Russes ne négligent pas avec plusieurs volets. Il y a un volet, je dirais, classique. Il y a un volet militaire. Il y a beaucoup de militaires algériens, égyptiens, qui sont de nouveau ou toujours aux affaires, qui ont fait leur classe à l'Académie de l'État-major soviétique. C'est très important, s'agissant en particulier des contrats d'armement. Mais il y a des chefs d'État qui ont étudié en URSS, le président namibien par exemple, mais il y en a d'autres. Donc effectivement, on peut dire que ce sont des personnages un peu vieillissants, une génération qui est plutôt sur le départ. Ceci dit, il n'y a pas eu de rupture, même si une baisse de régime, et surtout, ce que l'on voit depuis quelques mois, 2-3 ans, c'est une volonté d'envoyer, ou plutôt d'accueillir en Russie à nouveau une plus grande proportion des étudiants ou des officiers.
Arnaud Dubien, si je vous demande de faire un bilan de ce premier sommet Afrique-Russie à Sotchi, pour Poutine, c'est une réussite en termes d'image évidemment. Pouvez-vous parler par exemple de contrats d'armement?
Alors, le sommet
de Sotchi... On a signé des contrats?
Non, le sommet de Sotchi n'a pas donné lieu à la signature de contrats, de contrats significatifs en tout cas. Il s'agissait vraiment de faire une très belle photo, de montrer que finalement, tout le monde, toute l'Afrique va à Sotchi, ou presque. Et de ce point de vue-là, c'était un grand succès. Les contrats, ils ont été signés avant, il y en aura d'autres. Ce n'était pas le lieu. Il s'agissait vraiment de faire un symbole et de montrer... encore une fois, le rôle nouveau, les ambitions nouvelles sur le plan politique de la Russie sur le continent.
Louis Magloire Camaillou, évidemment, les symboles, c'est très important, il en faut, mais il faut aussi à un moment des résultats. Vladimir Poutine a dit lors de ce sommet que son ambition, c'était de doubler les échanges commerciaux d'ici 5 ans. C'est possible?
Ça va être compliqué, mais c'est une ambition qu'il nourrit, parce qu'il marche un peu dans les pas des Chinois. La Russie considère que parmi les pays des BRICS, elle est probablement la dernière aujourd'hui à n'avoir pas suffisamment réinvesti le continent africain. Et donc, à ce titre-là, elle y va, pas pour faire de la figuration, elle y va vraiment pour à la fois réaliser des affaires et élargir son champ d'influence diplomatique.
Elle a les moyens de son ambition, parce que vous parliez de la Chine, les volumes d'investissement n'ont quand même rien à voir quand on compare ce qui est proposé par Pékin à ce qui est proposé par Moscou.
Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est sûr que quand on est à 25 millions et que de l'autre côté, il y a plus de 250 millions qui sont investis, on ne joue pas dans la même cour. Cela dit, c'est une ambition que la Russie nourrit et qui, pour le moment, porte essentiellement sur l'armement militaire, mais avec un pays comme le Rwanda, par exemple, elle est en train d'expérimenter la possibilité de faire une coopération sur l'énergie nucléaire, le nucléaire civil, qui pourrait permettre de résoudre un grand problème, celui de l'électrification du continent africain. Donc, on est en train d'élargir la palette de la coopération, et peut-être que c'est en élargissant cette palette que le volume de l'aide suivra également, ou de la, le volume des échanges commerciaux suivra.
Ouais, du point de vue énergétique, je crois qu'il y a aussi des avancées du côté de l'Égypte, où on a signé notamment un contrat pour une première centrale nucléaire qui sera terminée à l'horizon 2029 ou 2030.
Absolument. L'armement, c'est effectivement le pilier historique de la relation commerciale entre la Russie et l'Afrique, mais ça va bien au-delà aujourd'hui. Il y a également des exportations agricoles, des exportations de céréales russes vers l'Égypte, où de fait les Russes sont en train de prendre la place des Français. Ce sera peut-être également demain le cas en Algérie. Et là, on parle de volume important. Il y a effectivement l'aspect énergétique. Alors paradoxalement, moins le pétrole et le gaz, qui sont pourtant les points forts traditionnels des Russes sur les marchés internationaux. Pourquoi ? Parce que les Russes sont en retard. Ils ont loupé le marché angolais, par exemple, où pourtant ils avaient beaucoup investi à l'époque soviétique. Mais ce sont aujourd'hui les Américains, les Français, les Chinois qui exploitent majoritairement le pétrole angolais. Par contre, ils cherchent à se placer au Mozambique. Et surtout, vous l'avez dit, il y a un vecteur d'influence, un vecteur industriel également, qui est Rosatom, le grand groupe public nucléaire civil russe, qui propose plusieurs choses. D'abord, la construction de centrales clés en main, elle le fait en Égypte, et la Russie finance. Tout ça se fait sur financement public russe, et on parle de volumes très importants, 10, 15, 20 milliards.
La Russie. Contre quoi? Parce que, formidable. Donc, la Russie donne à la fois.
Elle prête de l'argent.
Elle prête de l'argent et elle construit une centrale.
Absolument.
Donc, elle fait tout. En contrepartie, il y a quoi?
Demandez aux Chinois, ils vous diront.
Oui, mais elle le fait à crédit, mais elle ne le fait pas, je dirais, en perdant de l'argent. Tout ça reste rentable, simplement. Elle avance l'argent. Et surtout, vous créez des partenariats technologiques, industriels, pour 30, 40, voire 50 ans. Ouais. La Russie a essayé de faire la même chose en Afrique du Sud, qui avait un très grand projet d'électrification, un très grand projet de nucléaire civil. Ça n'a pas marché, pour l'instant en tout cas. Mais au-delà de la construction de centrales, la Russie propose aussi la mise en place de filières, la construction de laboratoires, la formation d'étudiants qui, le moment venu, pourront être, je dirais, activés et travailler sur ces centrales ou dans ces laboratoires. Donc, le nucléaire civil est un vrai vecteur où la Russie est très bien placée, parce qu'elle elle a une offre qui correspond en réalité aux besoins du continent. Et elle profite sans doute également de l'effacement de la France dans ce domaine, des grandes difficultés de la filière française.
Vous m'expliquerez tout à l'heure pourquoi ça n'a pas marché du côté de l'Afrique du Sud, parce que je crois que c'est un pays sur lequel Moscou misait beaucoup, donc j'aimerais savoir pourquoi ça n'a pas marché, mais il y avait une question que je voulais vous poser, ça se bouscule, hein, mais celle qu'évoquait Louis Magloire que Mayou, c'est-à-dire cette question de la rivalité, de la concurrence entre la Chine et la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui Moscou a les moyens de concurrencer Pékin sur le continent africain?
Il ne s'agit pas de concurrencer Pékin, il s'agit de prendre sa place ou de reprendre sa place dans des créneaux certes étroits mais potentiellement intéressants. Encore une fois, la Russie n'a pas l'ambition d'avoir le même volume des échanges avec l'Afrique que le fait la Chine ou même l'Inde ou même la France. En revanche, elle pense, à juste titre me semble-t-il, avoir des cartes à jouer dans des domaines très précis. Elle commence à le faire et je pense que l'objectif de doubler le volume des échanges est ambitieux mais pas forcément irréaliste. En réalité.
Ça prendra beaucoup de temps.
Louis Magloire que Mayou.
Ça prendra du temps pour le rattrapage économique parce que la Russie part quand même de très très loin et la Chine a pris une très grosse avance parce que quand aujourd'hui on parle par exemple de mettre fin au franc CFA, c'est pas pour avoir un panier de monnaie comprenant le rouble. C'est avec le yuan plutôt qu'on sera tenté de remplacer l'euro. Donc de ce point de vue.
C'est pas tranché encore. Hein.
C'est pas tranché encore. Mais il est à peu près certain que si le choix devait porter sur une nouvelle monnaie pour entrer dans le panier de monnaie qui serait utilisé, ce serait plus...
Oui, le rouble serait pas dans le panier de monnaie, c'est ça que vous voulez dire?
Le rouble, je ne pense pas. Le rouble, au stade actuel des choses, ça m'étonnerait que...
Le yuan, le dollar, l'euro, pourquoi pas, mais peut-être pas le rouble.
Non. Donc, il y a cette dimension-là déjà. Et puis, il y a à côté de cela une autre chose qu'il faut voir, c'est que sur le plan bancaire, il n'y a pas une grosse coopération aujourd'hui avec la Russie. En revanche, entre la Russie et la Chine, on se fait la courte échelle, puisque on veut contourner le système du SWIFT pour créer un système nouveau qui permettrait de faire des échanges en dehors des sanctions que les Américains ou d'autres grandes
puissances... Vous nous rappelez en quel point le système SWIFT?
Pardon?
Le SWIFT?
Le SWIFT, il est basé en Belgique et c'est le système qui permet de faire des échanges à l'échelle internationale entre des banques qui n'ont pas de lien direct entre elles. Donc aujourd'hui, ce système-là est centralisé en Belgique et permet aux Américains, quand ils veulent vous sanctionner, d'interdire des opérations entre les banques des différents pays. Mmh. Donc, ils vont déjà contourner cela. Et de ce point de vue, je pense qu'ils ne se mettront pas en concurrence frontale, chinois et russe, sur le continent africain. En revanche, chacun va creuser son sillon pour prendre un avantage comparatif sur le continent, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan économique.
Arnaud Dubien, vous nous rappeliez tout à l'heure que, en réalité, ce retour de Moscou en Afrique était plus ancien que ce qu'on l'imaginait. Vous évoquiez tout à l'heure 2006 et ce déplacement du côté de l'Algérie. Pourquoi est-ce qu'on choisit l'Algérie et quelle est la nature de la collaboration qu'on va remettre sur pied à ce moment-là?
On choisit l'Algérie parce que c'est un pays que l'on connaît bien à Moscou depuis la fin des années 50, depuis les années 60, depuis l'indépendance. Donc il y a une longue tradition de coopération militaire, mais également industrielle. Et les enjeux sont importants, les enjeux financiers sont importants. Et donc la Russie, en 2006, propose l'effacement de l'essentiel de la dette soviétique en échange de la signature de nouveaux contrats d'armement. Ça marche, et ça continue aujourd'hui. En revanche, le volet qui marche moins bien, et ça s'explique assez facilement parce que les Algériens et les Russes sont en réalité en concurrence, c'est le domaine gazier. En 2006, avait été envisagé une coopération entre Gazprom et Sonatra qui avait beaucoup inquiété à l'époque les Européens, la perspective d'un cartel du gaz, mais ça ne s'est pas matérialisé.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que Russes et Algériens sont concurrents en réalité dans le domaine du gaz et la fourniture de gaz à l'Europe. Les Russes ont essayé de faire la même chose en Libye. En 2008, d'ailleurs la dernière visite de Vladimir Poutine lors de son deuxième mandat, c'est à Tripoli. Alors c'est compliqué, d'abord parce que son interlocuteur à l'époque, M. Kadhafi, est un interlocuteur compliqué pour tout le monde, y compris pour les Russes. Mais surtout, il y a ensuite l'intervention anglo-française de 2011 qui réduit à néant ses efforts de diplomatie économique entrepris par les Russes. Mais il y a d'autres pays qui sont concernés par ce retour à l'époque, donc 2006-2008, et puis sous la présidence Medvedev, qui voit également la nomination d'un monsieur Afrique à Moscou. À l'époque, c'est monsieur Margelov, président de la commission des affaires internationales du Sénat russe. Donc on pourrait parler, on l'a dit, du Nigeria, avec là aussi des succès divers. Le projet de gazoduc transsaharien ne se fait pas, mais peut-être que tôt ou tard, les Russes vendront une centrale au Nigeria, en tout cas, ils l'espèrent. Il y a l'Afrique du Sud, où il y a de gros investissements russes dans le domaine minier. Alors certes, le volet nucléaire civil ne se concrétise pas, mais ça reste aujourd'hui l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie dans l'hémisphère sud. Et puis il y a d'autres pays comme le Maroc par exemple qui devient un pays très intéressant pour les Russes à divers titres. D'abord, le Maroc se substitue aux pays européens ou à certains d'entre eux pour ce qui est des livraisons de fruits et légumes à la Russie. La Russie a adopté en 2014 des contre-sanctions qui frappent principalement les Européens. Et donc si vous allez dans un supermarché ou à Moscou, vous trouverez beaucoup de tomates ou de baies importées du Maroc. Et puis il y a une coopération sécuritaire qui est
donc importante. Ça veut dire que les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne au moment du rattachement de la Crimée par Moscou, ce sont les Marocains qui ont tiré bénéfice de cela.
Entre autres, évidemment. Les Serbes aussi, mais en tout cas, vous voyez beaucoup de fruits et légumes en provenance du Maroc sur les étals russes, qui n'était pas le cas avant 2014. Et puis, il y a une coopération sécuritaire. Les dirigeants des services secrets marocains se sont rendus à Moscou. Les Russes sont rendus au Maroc. Manifestement, on discute de Sahel, on discute sans doute également de Moyen-Orient. Et puis, il y a un flux touristique aussi qui prend. Donc, voilà, la carte africaine de la Russie se diversifie et s'élargit.
Louis Magloire Kemayou, Arnaud Dubien parlait à l'instant de la Libye. Regardons un petit peu ce qui se passe du côté de la Libye. On sait maintenant, les informations semblent assez claires sur ce point, qu'il y a effectivement des mercenaires russes en Libye. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois du côté du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays, mais ils sont aussi du côté de Al-Sarraj, qui est lui le premier ministre du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Est-ce que c'est un bon pari que ce pari russe, qui est celui de finalement défendre les deux camps, est-ce que ça garantit effectivement à Moscou de gagner à tous les coups?
C'est une technique qui est utilisée par toutes les grandes puissances aujourd'hui, les grandes nations. C'est d'arriver à avoir plusieurs fers au feu. Au cas où d'un côté ça flanche, au moins on a la capacité de pouvoir se rattraper.
Sauf que là quand même, la spécificité de Moscou, c'est que on est des deux côtés d'un point de vue militaire. Soit effectivement, par exemple, les Français...
Sous forme de zone grise, encore une fois.
Oui, sous forme de zone grise, mais des deux côtés, sous forme... militaire, je veux dire.
Oui, oui, oui.
Du côté occidental, diplomatiquement, on était un peu obligé de défendre le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale parce qu'il est arrivé là sous l'égide d'un processus mené par les Nations unies, donc c'est difficile de faire autrement, mais en réalité, d'un point de vue militaire, on soutient le camp d'en face.
Le fait est que pour la Russie aujourd'hui, et ça c'est depuis la guerre en Tchétchénie, il est hors de question qu'il y ait de l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Ils ne supportent pas cela pour eux et ils ne voudraient pas être accusés de faire de l'ingérence de l'autre côté. Donc vous ne pouvez pas avoir de force militaire officiellement représentative de la Russie dans un pays à l'extérieur, surtout pas en Libye. Donc pour cette raison-là, ils ont choisi d'agir à travers des groupes qui n'engagent pas la responsabilité de l'État russe. Et donc, ça fait que aujourd'hui, la Libye, sur laquelle les Nations Unies ne se sont pas prononcées, aucun grand pays au sein du Conseil de sécurité n'a pris position pour une intervention ou contre, fait que il faut quand même que quelque chose se passe. Il y avait des liens, il y a de l'armement qui était vendu, il y avait des partenaires sur le terrain. On va pas les négliger. La Russie a perdu beaucoup de partenaires de cette manière. Elle ne va pas perdre tous ses partenaires. Et donc, elle essaie de garder, de miser sur plusieurs leviers d'action en Libye, en espérant que quand le conflit sera arrivé à son terme, les affaires pourront continuer, comme si reprendre là où elle s'était arrêtée, en gros.
Arnaud Dubien, le groupe que ne nomme pas Louis Magloire que Mayou, c'est le groupe Wagner, hein. C'est cette société privée russe qui appartient à un oligarque qui s'appelle Evgeny Prigojine, qui est a priori un proche de Vladimir Poutine, et c'est les mercenaires engagés par cette entreprise-là qui sont présents du côté de la Centrafrique, qui sont présents du côté de la Libye. Qu'est-ce qu'on sait très concrètement de ce groupe Wagner? Et puis je vais vous poser une question volontairement un peu naïve. Pourquoi est-ce que du côté de Moscou, justement, on utilise ce groupe privé? Pourquoi pas intervenir directement avec des soldats envoyés directement par le Kremlin?
Qu'est-ce qu'on sait de Wagner? Pas grand-chose en réalité. D'abord, on sait qu'il existe, c'est assez nouveau. On sait effectivement sa filiation avec... ce personnage assez trouble, je ne sais pas s'il est proche de Poutine, j'en suis pas certain.
C'est
il est proche de certains groupes militaires russes, du ministère de la Défense, qu'il utilise, manifestement. Combien sont-ils? On ne sait pas vraiment, quelques centaines. Ils sont présents aussi apparemment au Mozambique, au-delà de la Libye et de la Centrafrique. Pourquoi utiliser cet outil? Je dirais pour les mêmes raisons que la France utilise le service action de la DGSE, aux côtés d'Haftar.
Enfin, la DGSE, pardon, c'est l'État français.
Oui, mais elle n'est pas censée être là, mais officiellement, elle n'est pas là. Donc.
Oui, mais c'est l'État français.
Oui, mais ils ne pouvaient pas le prouver. Ils sont là-bas. C'est très difficile à prouver. Donc, certains ont fait ce choix-là, parce que la France est outillée, elle est plus près, mais elle est tout aussi, en tout cas, elle a été ces derniers mois très présente militairement. Par ce biais-là, je ne révèle aucun secret d'État. Jean Guinel a écrit là-dessus récemment, et très en détail. Les Russes, peut-être, ne sont pas outillés, n'ont pas l'équivalent du service action, en tout cas, dans sa discrétion. Les renseignements militaires russes ne sont pas réputés pour leur discrétion. On le voit de l'affaire Skripal à d'autres théâtres. Ils sont plutôt dans une logique d'engagement et de combat. Et donc, il a été choisi d'utiliser ce nouveau vecteur, ce nouvel instrument qui, finalement, présente beaucoup d'avantages et qui a été testé par d'autres puissances occidentales bien avant les Russes.
Alors, justement, ces mercenaires, on les a vus du côté de la Centrafrique en 2018, et c'est vraiment le moment où on s'est dit, tiens, voilà, il est là maintenant, le retour de la Russie, extrait peut-être d'une intervention justement du président centrafricain qui s'expliquait sur cette présence russe.
Il n'y a pas de contrepartie, c'est un soutien que la Fédération de Russie nous a accordé pour, la formation, pour la reconstruction de l'armée centrafricaine, qui était à un moment donné en effondrement. Je le répète, que le gouvernement centrafricain n'a pas déboursé un seul sou pour ça.
Faustin Archange Touadéra, donc le président centrafricain. Arnaud Dubien, et puis ensuite je vous fais réagir. Arnaud Dubien, pourquoi est-ce que la Russie a organisé son retour militaire en Centrafrique. Pourquoi ce pays-là?
Je dirais que c'est un peu le hasard. Et la France a en quelque sorte offert la Centrafrique sur un plateau aux Russes. Il faut revenir sur la chronologie des événements. En septembre 2017, le président Touadéra vient à Paris, rencontre le président Macron, qui lui dit d'aller voir les Russes pour discuter de la levée de l'embargo. Les Russes voient venir les Centrafricains, leur font une proposition globale, package sécuritaire. Donc l'opportunité, ils ne l'ont pas créée. Ils sont engouffrés dans une brèche, avec probablement la volonté de piquer un petit peu les Français, qui par ailleurs ont des Charles Leclerc en Estonie ou ailleurs. Vous voyez, c'est un jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, avec effectivement une logique un peu nouvelle, avec des mercenaires, avec une dimension, je dirais, de matière première. Bon, évidemment, ça contrarie beaucoup à Paris, ça contrarie beaucoup les militaires français, les diplomates français. Pourquoi? Parce que la Centrafrique, entre guillemets, c'était chez nous. Donc voir apparaître les Russes ici, c'est forcément désagréable, mais je voudrais mettre en garde contre un effet d'optique. La politique africaine de la Russie, c'est pas Bangui, c'est périphérique, je dirais même c'est marginal. Mmh. Ça nous paraît important, en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. La politique africaine de la Russie, elle se joue ailleurs, elle se joue en Égypte, en Algérie, peut-être demain au Mozambique, en Afrique du Sud, en Angola, etc. etc. Ouais.
Louis Magloire Kemayo, je voudrais vous entendre sur ce cas centrafricain, et puis vous poser une question à nouveau naïve, parce que, a priori, s'ils sont là, c'est pour améliorer la sécurité du pays.
Oui.
Est-ce que ça a fonctionné?
Apparemment, oui, ça permet de stabiliser, parce que, rappelez-vous, les scènes d'anthropophagie qu'on a vues à un certain moment à Bangui, où les gens se faisaient, les soldats se faisaient tuer, certains se faisaient manger en pleine rue, devant les caméras, il y avait cette bataille entre les miliciens chrétiens et les miliciens musulmans. Aujourd'hui, on a de moins en moins ce type de scène-là. Donc, mine de rien, ça a quand même été contenu avec l'arrivée des Russes. Est-ce que cela se fait gratuitement? C'est un partenariat gagnant-gagnant, comme ils disent. Le président Touadéra dit qu'il n'y a pas un seul sou qui est dépensé.
Vous y croyez?
Je pense pas que la Russie fait de la philanthropie, ça se saurait.
Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir en contrepartie? On sait qu'il y a beaucoup de minerais du côté de la Centrafrique, par exemple, des diamants, par exemple.
Oui, et je crois qu'il y a même de la part des rebelles centrafricains une espèce de fascination devant les Russes qui fait qu'aujourd'hui ils n'osent même pas les attaquer. Ils n'osent pas attaquer parce qu'ils craignent la présence russe, qui n'est quand même pas aussi importante qu'on peut le penser. Elle n'est pas significative. Ce ne sont pas 1000 soldats qui ont été déployés, ce sont quelques mercenaires. Et donc, il y a cette dimension.
Mais ça suffit.
Et ça suffit largement pour faire dissuasion. Donc, je pense que il y a aujourd'hui sur le terrain centrafricain une espèce de respect que les Russes ont réussi à imposer aux deux camps, et qui fait que, à la différence de la Russie, où ils, de la Libye, où ils jouent sur les deux tableaux, là, ils n'ont même pas besoin de jouer sur les deux tableaux. Ils sont suffisamment imposants.
Ils se placent en arbitre.
Ils sont les arbitres sur le terrain.
Alors, voilà quelque chose qui est très intéressant, Arnaud Dubien, parce que il y a la Centrafrique, mais pas si loin, il y a le Sahel. Or, on voit cette incapacité de la France à garantir la sécurité au Sahel. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, on s'interroge sur un possible retrait, puisque précisément, les groupes armés n'arrêtent pas de s'étendre depuis des mois. Et que par ailleurs, les pays concernés sont assez peu enclins à affirmer de façon claire et volontaire leur nécessité à faire appel à la France. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la Russie, justement, intègre ce terrain-là, qu'elle devienne le nouveau gendarme du Sahel, puisque visiblement, du côté de la Centrafrique, ça fonctionne?
Alors, c'est une piste intéressante. On a vu que les Russes ont signé des accords de défense avec les Maliens, par exemple. Maliens avec lesquels ils ont une coopération très ancienne, au demeurant. Il y a une déclaration qui a été faite il y a quelques semaines par l'ambassadeur russe à Bruxelles, auprès de la Commission européenne, M. Tchijov. Il a dit que si les Français souhaitaient évoquer le Sahel dans leur discussion bilatérale, ils trouveraient une oreille attentive à Moscou. Ça n'a pas été repris, j'étais assez surpris, parce que c'est vraiment une piste intéressante de coopération. C'est-à-dire sortir, peut-être, de ce qui a été perçu comme une rivalité franco-russe en Afrique, sur le théâtre centrafricain en particulier, et créer quelque chose de positif. Ça ne me paraît pas aberrant dans la mesure où il peut y avoir une forme de complémentarité. Il ne s'agit pas pour les Russes.
C'est un appel sincère, vraiment, du côté du Kremlin. On est d'accord pour coopérer sur le plan militaire?
Je pense.
Au Sahel?
Je pense, parce que Français et Russes sont plutôt complémentaires. Les Russes n'ont évidemment aucune intention de se substituer aux soldats français et en première ligne. Ça, il faut en être conscient. Les Russes n'en verront pas 4500 ou a fortiori 10 000 soldats avec les hélicoptères de combat, en tout cas pilotés par des Russes, pour en première ligne. Ukraine. En revanche, là où il peut peut-être y avoir une complémentarité, c'est que les Russes fournissent des matériels assez peu chers, dans des conditions très préférentielles. Ils peuvent former des officiers, ils peuvent avoir une valeur ajoutée en termes d'aviation stratégique, de transport. En tout cas, ça fait partie des pistes qui sont explorées par Paris et par Moscou dans le cadre de la feuille de route stratégique bilatérale qui a été signée le 9 septembre à Moscou dans le cadre du 2 plus 2. L'Afrique peut être un théâtre où peut-être enclencher une dynamique plus positive et sortir de cette bisbille centrafricaine qui est encore une fois, côté russe en tout cas, est plutôt anecdotique.
Et puis sur le
Louis Magloire Camayo,
le fait que la Russie soit présente en Algérie et que toute cette guerre soit quand même aux frontières de l'Algérie, parce que la Libye est frontalière de l'Algérie, le Niger, le Mali sont frontaliers aussi de l'Algérie. Donc à la fois la situation en Libye et la situation dans le Sahel intéressent énormément l'Algérie. Cependant, l'Algérie ne voudrait pas, à cause des relations tumultueuses qu'elle a avec la France, qu'il y ait une présence française beaucoup trop importante à ses frontières. Et donc, qui est un intermédiaire qu'est la Russie pour fluidifier tout cela, ne pourra qu'être une bonne chose. Et puis à côté, nous rappelons quand même deux, trois petites choses. La première, c'est que les Russes ont une maîtrise du réseau des terroristes en provenance du Moyen-Orient qui est assez importante. Ils ont certes perdu en Afghanistan, mais ils n'ont pas perdu face aux rebelles tchétchènes et à tous les musulmans radicalisés qui sont sur leur territoire. Donc de ce point de vue, ils ont une véritable expertise qui pourrait être utile pour les pays à la fois du Sahel et du Maghreb arabe en Afrique. La deuxième chose, c'est que au-delà de tout ça, elle est capable aujourd'hui, la Russie, de porter au sein du Conseil de sécurité une voix que la France n'arrive peut-être plus à porter sur ce dossier et qui ferait qu'on sortirait du tête-à-tête post-colonial pour entrer dans une coopération véritablement multilatérale dans la résolution de tous ces conflits.
Louis Magloire Camayo, on répète à l'envi qu'évidemment la grande force de la Russie, c'est d'arriver, de proposer son aide sans jamais parler de questions de droits de l'homme, sans jamais parler de démocratie. Évidemment, c'est la grande force de Moscou. On ne fait pas d'ingérence. On dit toujours que c'est sa grande force. Mais est-ce que c'est pas aussi sa faiblesse? Parce qu'on a aussi des jeunesses africaines aujourd'hui, dont les aspirations démocratiques sont de plus en plus fortes, de plus en plus prégnantes. Est-ce que, si on réfléchit sur le long terme, je ne parle pas là tout de suite, je parle sur le long terme, est-ce que finalement, cette présence russe, elle est aussi durable que cela, compte tenu des aspirations démocratiques de plus en plus fortes qu'on voit chez un certain nombre de pays africains?
Ce sont les résultats qui parleront par rapport à ce qui va se passer. Parce que si vous reprenez la période de la guerre froide, chacun a soutenu sa crapule. Hein. C'est une formule américaine. Chacun a sa crapule. Nous, on soutient les nôtres parce que ce sont les nôtres. Et aujourd'hui, quand on regarde le résultat, la plupart des régimes qui sont aujourd'hui considérés comme autocratiques, dictatoriaux ou totalitaires ont été soutenus peu ou prou pendant la guerre froide, soit par la France, soit par les États-Unis, soit par l'Angleterre, soit par l'ensemble de tous ces pays qui faisaient partie de l'OTAN. Donc que la Russie vienne aujourd'hui et ne soit pas regardante comme ne l'ont pas été ces pays dans le passé, ne change pas grand-chose à la donne. Ouais. Simplement, ce que les gens veulent, c'est qu'au-delà de ne pas être regardant, il y ait des résultats à la clé. S'il n'y en a pas, on aura le même problème à la fin de l'histoire.
Arnaud Dubien.
La question que vous soulevez, effectivement, se pose depuis quelques semaines, quelques mois, en Algérie en particulier. Et il est très significatif de noter que le traitement de la crise algérienne, des manifestations, pose problème. Le traitement par la rédaction parisienne pose problème à tel point que Russia Today, par exemple, a décidé d'ouvrir un bureau à Alger. Manifestement, pour avoir deux types de reportage, parce que effectivement, c'était un petit peu en porte-à-faux. Et j'observe que les déclarations de Poutine en octobre, en novembre, sur le soutien à son homologue de l'époque, ont été très mal reçues, effectivement, par la jeunesse algérienne. Donc ce n'est pas un facteur extrêmement dangereux à court terme, mais il est intéressant de noter que même les Russes ne peuvent pas en faire totalement abstraction de ces opinions publiques des pays concernés.
Mais c'est que les Russes aujourd'hui misent sur deux choses. La première, c'est que nous sommes là pour aider le gouvernement en place. La deuxième, c'est que nous faisons des affaires et tout ce qui se passe dans votre cuisine interne ne nous concerne pas. Donc, a priori, en ayant autant de gants, ils se prémunissent contre ce qui pourrait être considéré comme un retour de bâton de la part de la jeunesse. Mais est-ce que ce sera perçu comme tel sur la durée? Là est toute la question.
On peut peut-être nuancer un tout petit peu les choses. Si on prend par exemple le cas de l'Égypte, la Russie a eu de nouvelles ambitions avec l'Égypte à partir de 2013, à partir du retour d'Al-Sissi, à partir du retour des militaires. Donc après la phase démocratique, qu'on le veuille ou non, hein, parce que le président Morsi avait été élu démocratiquement, voilà. Donc c'est pas à n'importe quel moment que les Russes ont resserré les liens avec l'Égypte, et donc d'une certaine manière, ils se font sinon complices, au moins soutien direct d'Al-Sissi, et donc ne sont pas forcément dans une démarche de soutien de la démocratie. Donc il y a aussi le calendrier qui joue Arnaud Dubien.
Oui, ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Hein.
Bien sûr.
Les Français vendent des Rafales et la France se partage.
Comme disait Louis Magloire, tout le monde les soutient finalement.
Absolument,
les Égyptiens.
Mais dans le cas égyptien, c'est très important parce que historiquement, c'est l'Égypte la porte d'entrée russe au Moyen-Orient et par extension en Afrique. Et surtout, il y avait cette idée de laver la France 72, ça date, l'expulsion des conseillers. Donc le retour des Russes en Égypte, grâce à la faveur en tout cas du retour des militaires au pouvoir au Caire, est un événement fondateur de la deuxième vague du retour russe. Mais les Russes sont très habiles en réalité, même dans des pays comme le Soudan, où ils ont été impliqués, on ne sait pas jusqu'à quel point, peut-être par Wagner, à la répression, on constate qu'ils ont très bien réussi à revenir dans le jeu avec les nouvelles autorités. Et donc les inquiétudes qu'ils pouvaient avoir après ce changement de régime, ou ce glissement, ou cette transition, ne sont pas justifiées. Donc les Russes font preuve en réalité d'une très grande habileté dans tous ces pays.
On est avec vous Louis Magloire, Kemayou, et vous Arnaud Dubien. On parle donc de cette Afrique, un continent sous influence, à l'époque sous influence de l'URSS, aujourd'hui de la Russie. On va parler d'un autre pays qui là a fait preuve d'une certaine constance s'agissant de ses liens avec l'Afrique. C'est la seule dynastie communiste au monde, la Corée du Nord.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ce monument moulé dans du bronze aura une durée de vie estimée à 1200 ans. Puisse les symboles qu'il incarne et les messages qu'il véhicule inspirer à travers les siècles les peuples d'Afrique et de la diaspora dans notre quête commune d'un destin meilleur, dans une humanité fraternelle. Du sommet de la statue qui est aujourd'hui la plus haute du monde, du haut de cette œuvre d'art qui symbolise la renaissance africaine, au nom de l'Afrique, l'Afrique qui se reconnaît dans ce monument, je vous transmets un message de paix, condition indispensable à la renaissance de notre continent.
Voilà, Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais qui, en 2010, inaugurait le monument de la renaissance africaine, qui est un très beau monument sur les hauteurs de Dakar, qui a été réalisé par une entreprise nord-coréenne, qui avait été missionnée pour cela. Il était censé marquer le 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Je dis un très beau monument parce que c'est un monument qui a créé la polémique, d'abord pour son style, mais aussi évidemment à cause de son coût extrêmement élevé, dans un pays où à l'époque on était en pleine crise économique. Quoi qu'il en soit, cette statue, elle l'a révélé, cette présence nord-coréenne assez méconnue. D'ailleurs, à l'époque, le numéro 2 de la Corée du Nord avait fait le déplacement lors de l'inauguration et il était auprès de la délégation française qui était également présente. Alors, 10 ans plus tard, qu'en est-il de cette présence nord-coréenne? Bonjour, Juliette Morillo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste spécialiste de la péninsule coréenne. Vous aviez notamment coécrit avec Dorian Malovic Le Monde selon Kim Jong-un. Au-delà de ce cas particulier, Juliette Morillo, première question un peu générale. La réalité de cette présence nord-coréenne sur le continent africain, c'est quoi aujourd'hui? C'est important ou c'est marginal?
Alors, c'est bon, la Corée du Nord, c'est un tout petit pays, donc c'est forcément relativement marginal, mais c'est important déjà pour la Corée du Nord, qui tire quand même pas mal de ressources. On estime à 200 millions d'euros quand même les échanges dans les années entre l'Afrique et le continent africain et la Corée du Nord, je crois que c'était en 2016, et ce sont des liens qui sont très très anciens et qui sont de deux ordres. Alors, vous avez des liens intimes et idéologiques.
Anciens comment, Juliette Morillo?
Eh bien, ce sont des liens qui remontent dans la plupart du cas à la guerre froide, aux guerres d'indépendance, à ce moment-là, sous l'impulsion de Kim Il-sung. La Corée du Nord, qui elle-même avait été victime de la colonisation japonaise, a fourni une aide aux nations africaines contre les puissances coloniales et, par exemple, le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est d'ailleurs, c'est ça qui est assez amusant, je discutais à Pyongyang il y a un an avec un ancien diplomate qui avait vécu en Afrique et qui me disait que même face aux sanctions internationales et puis à l'offensive finalement sud-coréenne de s'installer en Afrique, énormément de pays africains qui avaient des relations avec la Corée du Nord ont dit qu'ils renonçaient à leurs liens, à leurs ambassades, à leur diplomatie avec Pyongyang. Mais quand je lui dis ça, il a souri et il m'a dit « nous n'avons pas forcément d'ambassade sur place ». En apparence, beaucoup de pays sont rapprochés de la Corée du Sud et sont alignés sur la communauté internationale, mais au fond, rien n'a changé parce que les pays africains ont connu la colonisation et au fond d'eux, ils jubilent quand ils voient un petit pays comme nous tenir tête aux États-Unis. Donc il y a une sorte, il y a la façade, comme souvent, et puis il y a ce qui se passe réellement sur le terrain.
Et alors, comment est-ce qu'on fait justement du côté de Pyongyang pour ne pas se faire remarquer? On utilise la façade chinoise, c'est ça? On se cache exactement, derrière l'étendard chinois.
Exactement, et c'est d'ailleurs assez assez drôle parfois, enfin drôle, c'est une façon de parler, quand vous voyez par exemple, alors la coopération, enfin ces liens entre la Corée du Nord et l'Afrique se traduisent par plusieurs choses. Vous avez des liens militaires, entraînement militaire de troupes, par exemple les instructeurs nord-coréens qui ont formé en Angola, en Ouganda, la garde présidentielle et les troupes aux arts martiaux. Vous avez construction de bâtiments, d'usines de munitions, échange d'armes, enfin trafic d'armes, etc. Et par exemple, quand on regarde le cas de la Namibie, qui a fait construire quand même pas mal de morceaux du palais présidentiel, des usines d'armement, on voit que à un moment, la Namibie a été étranglée et est obligée de dire qu'elle avait renoncé, en raison des sanctions internationales, à cette aide nord-coréenne, et elle doit renvoyer, c'est dans les sanctions, les travailleurs nord-coréens. Puis quand on va sur le terrain, on s'aperçoit que les panneaux, en effet, qui marquaient que c'était des entreprises coréennes sur les chantiers, ont été remplacés par des panneaux chinois, mais quand on interroge les gens sur place, le personnel n'a pas changé. Et là, comme vous le dites, Florian, ça, on joue sur cette éternelle ambiguïté qui est un petit peu compliquée à expliquer, mais aux confins de la Corée du Nord, en Chine, en Mandchourie, vous avez une zone ethnique coréenne où vivent des Chinois qui ont donc le passeport chinois, qui sont de nationalité chinoise, mais qui sont ethniquement coréens. Une partie de ces Chinois ethniquement coréens ont également des sortes de laissés-passer permanents en Corée du Nord et sont pas vraiment des citoyens à part entière en Corée du Nord, mais ils sont quand même nord-coréens aussi. Une sorte de curieuse double nationalité. Ce qui permet finalement de contourner aisément les sanctions contre la Corée du Nord, puisque finalement on troque la nationalité nord-coréenne contre la chinoise, et c'est un tour de passe-passe rapide.
Ce que vous racontiez à l'instant me fait penser, j'ai lu en préparant cette émission, une chose à peu près similaire du côté du Sénégal, où là c'est des journalistes sénégalais qui sont intéressés à une entreprise chinoise, et de la même manière ils s'approchent des ouvriers qui sont présents et ils leur demandent mais vous venez d'où, et ben on vient de Pyongyang. Alors oui, effectivement, Pyongyang c'est plutôt du coup des nord-coréens. Mais Juliette Morillo, pourquoi est-ce que du côté des pays africains on se tourne vers la Corée du Nord? Parce que vous disiez l'armement, la formation militaire sont des choses que pourrait proposer la Chine ou la Russie par exemple. Quel intérêt de collaborer avec la Corée du Nord?
Alors déjà, ces liens qui sont anciens, qui sont importants et qu'on remarque même à Pyongyang dans les musées. Enfin, c'est très 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 mis en valeur et qui sont liés également avec des liens. J'insiste là-dessus, des liens intimes. Quand on va par exemple dans les, ça paraît anecdotique, mais quand on va dans une colonie de vacances qui se trouve à Wonsan Sangdo-won, on s'aperçoit que vous avez des enfants, par exemple, du président du Nigeria, qui sont envoyés passer leurs vacances là-bas. Donc vous avez des liens intimes entre les familles au pouvoir. Et puis sur le terrain, en fait, les Nord-Coréens sont extrêmement compétitifs, ils sont très hautement qualifiés. Et puis ce qu'on m'a expliqué, c'est que par exemple, quand on construit une usine d'armement, une usine de munitions, ils construisent l'usine, ils apportent leur savoir-faire et puis ils ont un suivi un petit peu ad aeternam, un suivi de la production d'armes, un suivi sur le terrain de très très haute qualité que ne leur offrent pas finalement d'autres pays ou leur offriraient beaucoup plus cher. En fait.
Donc un bon service et en plus un service pas cher. Allez, réaction peut-être en guise d'en conclusion, on arrive presque au terme de cette émission. Louis Magloire, Que Mayou et Arnaud Dubien, c'est vrai qu'on ne soupçonne pas ces liens très forts entre la Corée du Nord et le continent africain.
Hein. Non, on ne les soupçonne pas, mais dans le même temps, comme diraient les Chinois, on est encore une fois dans du gagnant-gagnant, parce que d'un côté, à cause des sanctions, les Coréens ont besoin d'avoir une profondeur pour vendre leurs armes, et les pays africains proposent cette profondeur-là, géostratégique, qui permet d'avoir des usines à l'extérieur, d'avoir des comptes à l'extérieur pour vendre, et puis de l'autre côté, ils apportent un service qui est effectif, celui de former des militaires, de former la garde rapprochée, d'être dans la pêche, dans les PMA, si on peut, pêche. Ah, j'ai oublié à quoi ça correspondait. Mais bon, il y a l'armement aussi, et puis les mines, voilà. PMA, pêche, mine et armement. Donc, ils sont dans ce triptyque-là, et cela permet, pour les pays où ils sont installés, d'avoir de la discrétion, d'avoir de l'efficacité, et puis d'avoir un service qui coûte pas cher. C'est pas mauvais dans le deal.
Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Juliette Morillo, d'avoir été avec nous en direct par téléphone. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Dorian Malovic de cet ouvrage Le Monde, selon Kim Jong-un, qui était paru chez Robert Laffont, livre dans lequel, d'ailleurs, on peut retrouver le témoignage du fameux diplomate dont vous nous parliez tout à l'heure, puisqu'il y a un chapitre qui est consacré précisément à cette présence nord-coréenne du côté de l'Afrique, et on entend justement ce diplomate que vous aviez rencontré. Merci beaucoup. C'est Zogo Dewondo, une réédition d'un titre disco-funk des années 70 de ce chanteur d'origine camerounaise qui est installé aujourd'hui en France. Merci infiniment à nos deux invités, Louis Magloire, Que Mayou, pardon, vous êtes journaliste et président du Club de l'Information Africaine. Arnaud Dubien, merci infiniment d'avoir été avec nous. On mettra sur la page de Culture Monde les rapports, notes, sur lesquels je me suis appuyé pour échanger avec vous ce matin. 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et ce matin, vous nous proposez de découvrir un écrivain. Il est libanais, il est exilé, il est canadien.
Dans la New York Review of Books qui vient de paraître, on trouve une étude assez passionnante consacrée à trois des livres publiés par cet écrivain que nous avons appris à connaître ici, puisque la plupart de ses romans ont en effet été publiés en français. Rawi Hage, c'est son nom, Elle est au Liban, est née au Liban en 1964, en effet. Son père tenait une boutique de prêt-à-porter pour dames dans le quartier d'Achrafieh, à Beyrouth. 1964, l'âge d'or du pays des cèdres, l'époque où il était décrit comme la Suisse du Proche-Orient. La capitale libanaise avait à cette époque des allures de Californie, avec ses voitures américaines rutilantes, ses filles en pantalon corsaire et coiffées en choucroute comme Brigitte Bardot. Sa douceur de vivre, je peux en témoigner, j'y étais. Et puis, il y a eu la guerre civile, 1975, on a commencé à se tirer dessus à la mitrailleuse, d'immeuble à immeuble. Réfugiés palestiniens contre armée libanaise, chrétiens contre musulmans, sunnites contre chiites, pro-syriens contre anti-syriens, le pays est tombé entre les mains de milices confessionnelles, de seigneurs de la guerre qui contrôlaient un quartier. Toutes sortes de truands ont vu dans la déliquescence de l'État une occasion de pratiquer le racket, l'enlèvement contre rançon. Le massacre absurde, alimenté par des puissances voisines jalouses de la réussite du pays, a duré 15 ans. Il a fait plus de 200 000 victimes civiles dans un pays qui ne comptait lors du déclenchement des hostilités que 4 millions de Libanais. Comme tant de Libanais, Rawi Haj, qui a assisté à bien des horreurs, a choisi l'exil en 1984. Il a survécu de petits boulots à New York pendant 8 ans. Il ne s'y est pas plu. En 1992, il a plié bagage et s'est installé à Montréal. Après avoir suivi une formation de photographe, il s'est mis à écrire en anglais et il a connu le succès. Prix des libraires du Québec pour Parfum de poussière, prix Impact de Dublin, l'un des mieux dotés du monde, tenez-vous bien, c'est une bourse de 100 000 euros. Son roman, Le Cafard, fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Certes, Rawi Haj écrit en anglais, mais il le confessait il y a quelque temps, cet ancien élève d'un collège maronite de Beyrouth est autant nourri de culture française que de poésie arabe. Une de ses traductrices s'est aperçue que l'anglais qu'il écrit était pétri de gallicisme. « Je ne te traduis pas, dit-elle, je rétablis ton français. » Tous ces livres constituent autant de règlements de compte désabusés avec le déchaînement de violence au sein duquel il a été contraint de vivre pendant près de 10 ans de jeunesse. La violence le hante, celle à laquelle il a été confronté, mais aussi paradoxalement celle qu'il a refusé de commettre. Dans son roman « Le cafard », le narrateur se reproche de n'avoir pas tiré sur la gâchette alors qu'il tenait son arme sur la tempe de l'assassin de sa sœur. De manière générale, ces héros sont des personnages qui échappent à la folie ambiante par les moyens de la dérision, du désengagement personnel. Dans « The Hero's Game », disponible en folio, nous est narrée l'éducation politique et sentimentale de deux garçons qui ne croient plus en rien, mais dont l'un finira étrangement pourtant en milicien maronite participant au massacre de civils palestiniens au camp de Sabra et Shatila. Alors que leur occupation préférée à ces deux gamins avait longtemps consisté à foncer à moto à travers les quartiers où tombaient des bombes. Haj est parfaitement conscient du risque qu'il y a à décrire la violence en refusant de prendre parti et en choisissant de prendre de l'altitude par rapport au terrain. C'est le risque de l'esthétisme ou du cynisme.
Et comment échapper à ce risque, Brice ?
Rawi Haj ne cache pas qu'il cherche son inspiration du côté du réalisme magique sud-américain. Chez lui, on voit des nonnes superviser des orgies, des chiens morts discuter théologie. L'humour ravageur de Rabelais, la culture du carnaval, celle qui permet de mettre cul par-dessus tête, c'est le moyen littéraire par lequel on peut tourner en dérision les absurdités des croyances et des rites religieux. Et c'est le moyen que Haj a choisi pour tourner en dérision la folie belliqueuse inspirée par les appartenances. Toutes les religions, celles qui ont alimenté ces haines aberrantes entre citoyens d'un même pays, en prennent pour leur grade. C'est le cas de l'islam dans Carnaval, mais le christianisme dans sa version maronite, celle que professait sa famille, n'est certes pas épargné avec son culte aveugle du chef, ses hiérarchies moyenâgeuses, il est caractérisé par l'auteur comme un proto-fascisme. Dans Beyrouth Hellfire Society, que publieront cette année au Québec les éditions Alto, le héros est un croque-mort de Beyrouth, Beyrouth-Est, secteur chrétien, que ses amis ont surnommé, tenez-vous bien, Pavlov. Pourquoi Pavlov ? Parce qu'il a eu l'idée de donner aux chiens du quartier un seau d'entrailles humaines à l'occasion d'une messe d'enterrement. Et depuis, les chiens réclament leur pâture chaque fois que sonnent les cloches de l'église. De manière générale, Rawi Haj montre comment le Liban étouffait dans son fameux système multiconfessionnel. Ses livres inspirent les Libanais qui, ces jours-ci, manifestent pour une pleine citoyenneté nationale et contre la logique meurtrière des appartenances confessionnelles.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donc Rawi Haj, à lire ou relire, Parfum de poussière, Le cafard, ben voilà un petit peu de travail pour moi me concernant. Merci beaucoup cher Brice, on vous retrouve demain.